Maintenant, nous allons en fait donner la parole à Monsieur Bouanani, Monsieur Elias Bouanani. Bonjour. Vous êtes juriste à l'Observatoire des discriminations et des territoires interculturels. Vous êtes aussi co-rédacteur du récent guide des droits des résidents étrangers, en fait, qui s'appelle Citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Vous avez des droits. Alors, c'est un guide qui est assez conséquent. Il y a quand même 76 pages à découvrir. En fait, là, je vois que vous l'avez en format papier, mais je sais qu'on peut le trouver sur le site internet de la ville de Grenoble. Est-ce que vous pouvez brièvement présenter l'ODTI et ses actions?
Alors, très brièvement, alors l'ODTI est une association qui a été créée dans les années 70 avec pour objectif fondamental de favoriser l'égalité des droits, hein, favoriser l'égalité des droits entre Français et étrangers. Alors, très rapidement, le projet de l'ODTI a été centré sur le logement et l'hébergement. D'abord par la création d'un foyer de travailleurs migrants. D'accord, dans les années 70, qui a été transformé au début des années 2000 en résidence sociale. Donc dans les années 70, nous accueillions à l'époque des personnes issues de l'immigration essentiellement algérienne, hein, venues s'installer dans le quartier Almatré-Cloître, et dont on a pu voir au fil du temps, effectivement, donc d'abord leur difficulté d'intégration, hein, le fait de vivre dans un foyer de travailleurs migrants, eh bien, c'est une réalité aussi assez ségrégationniste. Donc il a fallu au fil du temps ouvrir le foyer, créer ce qu'on a appelé la résidence sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui la résidence sociale, donc située au 7 Place Edmond-Arnaud dans le quartier Almatré-Cloître. Alors l'ODTI, c'est le logement, c'est l'hébergement également, avec un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour une vingtaine de places. Donc le CHRS, on appelle ça, c'est destiné à des personnes migrantes, hein, originaires de pays étrangers, en âge de travailler, donc majeurs, et dont l'objectif, c'est vraiment l'insertion sociale et professionnelle, voilà, en contexte discriminant, on va dire. Alors, il y a une dimension très forte également à l'ODTI, et dès le départ, c'est la question de l'accès au droit. L'accès au droit avec un service juridique, hein, qui s'est créé dès les années 1970, parce qu'on a constaté que les personnes se rendaient dans leur lieu de travail, dans les chantiers, et étaient victimes souvent d'employeurs indélicats. Hein. On peut le mesurer par aujourd'hui des carrières. Pour des gens qui sont arrivés à la retraite, de carrières morcelées. Hein, les employeurs n'ont pas toujours déclaré les personnes, ce qui fait qu'effectivement, arrivés à la retraite, ils se retrouvent avec des retraites assez chaotiques, dirons-nous. Alors, l'ODTI, c'est un service juridique, c'est aussi un service d'apprentissage du français. Hein, ça a été décrit ici, hein, l'ODTI, depuis une bonne dizaine d'années également, travaille sur cette question. Ça procède également de la notion d'égalité des droits. Hein. Savoir parler le français, c'est aussi favoriser l'égalité des droits, évidemment. Enfin, il y a un service santé migrant. La santé, c'est essentiel. Et depuis les années 2000, même les années 90, on a travaillé sur notamment la question de la problématique du sida. Pour les migrants. Et cette problématique d'accès à la santé, c'est effectivement à évoluer vers d'autres problématiques santé. Aujourd'hui, on pense en particulier à la question de le vieillissement de la population immigrée, sur lequel, effectivement, nous, à l'ODTI, on a tout un programme d'action très important. On a édité un guide qui s'appelle le guide du retraité étranger. Hein, qui est consultable également sur le site de l'ODTI. Donc vous pouvez tout à fait le consulter. Vous me posiez la question peut-être également
Alors,
du guide
oui,
en question?
effectivement, par rapport à ce guide, en fait, j'aurais aimé savoir qui étaient les acteurs partie prenante de la conception de ce guide. Dans un second temps, j'aimerais savoir qui peut se saisir de ce guide, parce que, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut le lire. Je pense peut-être qu'il est à destination des coordinatrices, des écrivains publics, etc.
Alors, la genèse de ce projet, je crois qu'il est important de rappeler que il existait un guide déjà dans les années fin des années 90 qui avait été commandité par la ville de Grenoble. Alors il a fallu aujourd'hui en 2017 revoir évidemment l'ensemble des informations qui étaient données dans ce premier guide, puisque le droit est très évolutif, et on a pu de fait constater que face à l'inflation législative, réglementaire, jurisprudentielle, la nécessité de donner des informations fiables et pertinentes s'avérait aujourd'hui particulièrement essentielle. Alors, il est destiné à qui ce guide ? Alors, il est destiné évidemment aux personnes qui vivent en France, qui s'installent à Grenoble, dans cette ville ou dans cette agglomération qui est une agglomération internationale, hein, et dont les personnes vous souhaitant s'installer vraiment ont besoin d'avoir une information disponible. Alors il est évident que le droit étant complexe, s'appuyer sur des personnes qui aident au quotidien les personnes étrangères est, à mon avis, très important. Hein. Y a une complexité, mais on a essayé malgré tout de donner une information accessible. D'accord ? Voilà. Après, dans le domaine de l'accès au droit, et je pense en particulier à toutes les procédures qui peuvent conduire à saisir un tribunal, il faut s'adresser à des professionnels, c'est très important.
Comme vous, par exemple.
Par exemple, et d'autres, évidemment. Alors, nous, à l'ODTI, on reçoit tous les vendredis matins, au sein d'une permanence juridique, donc consacrée effectivement aux problèmes qui se posent aux personnes étrangères, liés à l'accès au séjour, à l'accès à la nationalité française, aux problématiques de protection sociale, quand les gens ont des difficultés face à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'allocation familiale, c'est notre travail que de traiter les questions. On va de la simple information au montage de dossiers et à la saisine des tribunaux. Hein. Donc ça, c'est effectivement notre rôle au sein du service juridique de l'ODT.
Est-ce que c'est facile de faire face à l'évolution des lois, justement, et de toutes les jurisprudences qui peuvent avoir eu lieu ces dernières années ?
Alors, c'est pas facile, mais c'est le travail du juriste, hein, que d'avoir un rôle de veille sur l'ensemble des textes qui émanent, effectivement, du Parlement. Hein. Mais aussi, nous, c'est très important de travailler là-dessus, c'est sur l'évolution de la jurisprudence. Parce que nous sommes dans un état de droit. Il y a des lois qui émanent effectivement du Parlement. Donc souvent, d'ailleurs, l'initiative, c'est le gouvernement, hein, qui édicte un certain nombre de lois et des règlements. Mais savoir que dans un état de droit, il y a aussi l'autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire, elle est là pour faire appliquer la loi. Et donc saisir les tribunaux, c'est aussi faire respecter l'état de droit. Hein. Au-dessus de l'administration, il y a l'état de droit. Ça, c'est essentiel. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu aussi rappeler à travers ce guide.
Et alors, ce guide, est-ce que vous en faites l'information ? Enfin, comment est-ce que vous le diffusez, justement, auprès des personnes qui peuvent en faire, je dirais, l'article pour les personnes qui sont vraiment concernées ?
Alors, évidemment, on essaye de le promouvoir à travers différents moyens. Hein. On a organisé un 12-14 où effectivement on a invité les travailleurs sociaux en particulier à venir s'informer sur cette nouveauté, hein, qui est le guide des citoyens étrangers. On a essayé effectivement d'en faire, s'appuyant sur le réseau de la ville de Grenoble, la ville de Grenoble étant le promoteur de ce guide, il est évident qu'on en parle. Le bouche à oreille est absolument essentiel. On a fait des articles de presse et il y a aussi tout un réseau de villes partenaires, autres que Grenoble, partenaires de ce qu'on appelle le COFRACIR. COFRACIR, c'est le Conseil français de la citoyenneté de résidence qui regroupe un ensemble de villes au niveau français, dont Strasbourg, dont Paris, avec pour objectif donc de diffuser ce guide.
J'ai vu justement sur le site internet de la ville de Grenoble que rien que dans le titre en fait du guide, on parle de citoyens étrangers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette proposition ou cette ouverture en tout cas à l'idée que les personnes qui viennent d'ailleurs puissent devenir des citoyens en France ?
D'abord, nous, on comprend le terme citoyen comme étant l'habitant de la cité, d'accord ? Habitant la ville, au-delà de la simple question de la nationalité. On distingue bien citoyenneté et nationalité française. L'objectif pour un étranger, très souvent, c'est d'accéder à la nationalité française, mais ce n'est pas une obligation. Pour autant, un ressortissant étranger est un citoyen, au sens où il entend s'impliquer dans la vie citoyenne de la cité.
D'accord. Quel constat vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à l'évolution des lois ces dernières années ? Est-ce que on va dans un sens de favorisation de l'accueil ? Ou est-ce qu'au contraire, les difficultés s'amoncellent ?
Depuis 1974, il y a une logique de fermeture des frontières en France. Donc on n'est pas dans une logique visant à promouvoir d'abord l'accueil des étrangers, malheureusement. Alors c'est peut-être un propos politique, et je m'en excuse, mais on a constaté, nous, en tant que juristes, une logique de contrôle de l'immigration qui surpasse largement la question de l'accueil. Donc face à ça, évidemment, on peut s'interroger. On peut s'interroger et on renoue avec les grands principes, les principes fondamentaux, que sont le principe d'égalité des droits, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce la question que la France favorise l'égalité des droits de tous, de toutes les personnes vivant sur le sol français. Ensuite, on a parallèlement aussi favoriser la question de la lutte contre les discriminations qui peuvent toucher également les étrangers. Donc face à des lois qui sont de plus en plus restrictives, notre rôle c'est de rappeler qu'il existe en France un certain nombre de textes fondateurs, fondamentaux, qui visent l'égalité entre Français et toute personne vivant sur le sol de notre territoire.
Et justement, vous, dans le cadre de votre travail, à quel type de discrimination vous devez faire face ? Enfin, quels sont les moments où vous devez agir ?
Alors, c'est pour nous peu dit, mais la réalité, c'est que les discriminations sont d'abord institutionnelles, malheureusement. Ce sont d'abord les institutions qui discriminent en France. Elles discriminent par un certain nombre de législation, et effectivement, vous voyez bien les lois applicables notamment en matière de droits des étrangers. C'est des lois qui sont restrictives sur la liberté de circulation des personnes. Ensuite, on le voit à travers des pratiques administratives qui peuvent se jouer à travers notamment ce qu'on appelle le pouvoir du guichet. Le pouvoir du guichet peut. On peut constater parfois des attitudes, des comportements émanant d'un certain nombre de fonctionnaires, malheureusement, qui visent justement à écarter les personnes des droits auxquels ils peuvent prétendre. Donc, ça, cette réalité-là, on ne peut pas la nier.
Mais ça constitue un délit ?
Ça peut l'être, absolument, ça peut l'être. Ça peut relever, effectivement, de pratiques délictuelles, absolument, absolument.
D'accord.
Alors c'est difficile toujours à prouver, à mettre en évidence, mais cette réalité-là, il faut aussi la concevoir et la connaître.
Considérer.
Et la considérer.
D'accord. Alors, justement, comme vous êtes là sur le plateau et qu'il y a du monde qui voudrait vous poser des questions, il y a beaucoup de questions pour vous ce matin. Je vais donner la parole d'abord à Lobna qui va dire la question de Habib, qui n'est pas là ce matin, mais qui lui a confié sa question à Monsieur Bouanani.
Les demandeurs d'asile ont minimum 6 mois, 1 an, souvent 3 ans, sans autorisation de travail. S'ils travaillent, ce sera plus facile pour l'intégration et la régularisation. Pourquoi on ne donne pas le droit de travail?
C'est une vraie question, évidemment. C'est celle qui se pose très souvent quand on vient nous voir au sein des permanences juridiques. Le fait qu'il n'y ait pas d'autorisation de travail pose de vrais problèmes aux personnes qui souhaitent simplement être autonomes et vivre comme tout le monde. Alors, je le répète, depuis 1974, la France n'a pas choisi le chemin de l'ouverture des droits à l'ensemble des personnes, notamment étrangères. Et ça passe notamment par des droits restrictifs à l'accès au travail. Alors comment c'est justifié? C'est justifié par le fait que depuis les années 70, les années 74 justement, la France a connu une crise économique. Et de ce fait, la priorité qui est donnée au travail, à l'accès au travail, c'est la priorité pour des personnes qui sont françaises ou étrangères en situation régulière. Et de ce fait, donner... Alors, c'est le point de vue de l'administration, hein, des gouvernements successifs. Ouvrir trop le marché du travail aux étrangers, c'est peut-être prendre la place de personnes qui seraient... qui devraient, eux, occuper ces emplois. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de l'administration. Alors, beaucoup de titres de séjour prévoient l'autorisation de travail. Beaucoup. Hein. Alors, vous me disiez que la situation de l'asile ne permet pas l'autorisation de travail. C'est vrai. Mais une fois que vous avez le statut, le marché de l'emploi vous est ouvert. J'ai malheureusement pas d'autres réponses à vous donner. Rien ne vous empêcherait, en tant que demandeur d'asile, de chercher du travail, d'accord, et de vous voir autorisé à être travaillé, d'accord. L'administration pourrait tout à fait vous accorder ce droit. Le seul problème, c'est qu'elle rechigne à le faire. Pour les raisons que je vous ai exposées, c'est la question de l'opposabilité du marché de l'emploi en raison du chômage très important dans ce pays.
Je crois que Habib avait une seconde question, Lobna.
La deuxième question, les avocats sont payés. Est-ce qu'ils pourraient être contrôlés? Ils profitent de l'argent de l'État, mais parfois ils ne font pas leur travail.
Les avocats ne font pas leur travail, toujours, vous dites?
Parfois.
Parfois. C'est juste. Entre toujours et parfois, c'est pas la même chose. Que vous répondre là encore, hein.
Là, je crois que
c'est délicat.
La question fait référence au fait que Habib a dû sans doute se rendre à Paris pour défendre son cas.
Son dossier, oui, bien sûr.
Et puis, elle a eu sûrement un avocat...
Qui
est payé par l'État,
ouais.
Et elle considère que voilà, qu'il a pas bien défendu son cas.
Voilà, ça peut malheureusement arriver, tomber sur un avocat qui fait effectivement pas le travail que vous attendiez. Après, il y a en France un système de double juridiction. Donc vous avez le premier avocat devant l'OFPRA, mais vous avez aussi la Cour nationale du droit d'asile, hein, qui peut vous aider. Donc vous êtes libre d'en changer devant la CNDA, par exemple. Je serais en difficulté pour vous dire comment vous retourner contre cet avocat qui n'aurait pas fait ce travail. Vous avez effectivement l'ordre des avocats qui pourrait être saisi, mais j'ai peur que ce soit délicat. Ce soit délicat. Chacun doit avoir sa conscience professionnelle et il doit la mener jusqu'au bout. Un avocat qui ne fait pas son travail, c'est pas normal, effectivement.
Alors maintenant, nous allons donner la parole à Aline.
Je ne suis pas un demandeur d'asile ou quelque chose comme ça. Mon type de visa, c'est d'accompagnante d'étudiante, parce que mon mari, il fait la thèse ici. Mexicaine. Donc, il y a 12 ans que nous sommes ici, mais il reste un autre 12 ans, parce qu'au Mexique, la thèse est de 4 ans. Donc, maintenant, j'essaie de faire quelque chose dans ma vie, parce que j'ai parlé un peu de français. Quand je suis arrivée, je ne parlais rien. Donc, c'est difficile de faire n'importe quoi, c'est difficile quand on ne parlait pas la langue, tout c'est un problème. Mais maintenant, j'ai dit, OK, peut-être je peux faire quelque chose, mais je ne peux pas travailler parce que ma visa, il dit que je ne peux pas travailler. Donc, mes questions, c'est si je peux faire quelque chose pour trouver un travail ou changer mon visa ou quelque chose comme ça. Mais je crois que ça a déjà répondre. Donc,
ce que tu disais la dernière fois, c'est quand même qu'on t'avait répondu que tu étais trop vieille pour étudier.
C'est ça. Elle m'a dit que je peux changer mon visa si je le change d'étudiante, mais il m'a dit que je ne peux pas débuter une autre chose, que ce n'est pas les choses que j'ai apprises au Mexique, mais je ne peux pas faire un master dans les choses que j'ai apprises au Mexique. Donc, je ne peux pas débuter à quelque autre chose parce que je suis très vieille, et, apparemment. Donc, je ne sais pas si je peux faire autre chose.
Je suis surpris que la condition d'âge soit un critère.
Ça m'avait dit.
Je suis surpris.
Mais il m'a dit, ah non, mais toi, 30 ans, tu ne peux pas entrer à la licence. Et j'ai dit, OK, pourquoi? Il m'a dit, non, tu es très vieux.
Ouais,
merci.
C'est de la discrimination.
Je crois.
Il y a l'âge.
Je crois.
Vous
non,
êtes
elle
jeune,
dit...
hein, mais...
On peut peut-être terminer votre interview par une question... de Rezarta, en fait, qui était dans le groupe de la MDH ABI. En fait, elle s'étonnait, Rezarta, que quand on a un récépissé de la part de la préfecture pour rester sur le territoire, que l'on puisse quand même dormir dehors. Est-ce que il y a des droits ou des choses comme ça qui peuvent être mises mise en action, enfin, comment est-ce qu'il est possible que, par exemple, la ville intègre ce genre de problématique? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez répondre.
C'est vrai que M. Denoyel hein, aurait pu totalement répondre à cette question beaucoup mieux que moi, à mon avis, hein, puisqu'il s'agit là encore de choix politiques. Ah, effectivement... Le droit au logement, c'est un principe fondamental hein, qui s'applique aux Français comme aux étrangers qui vivent sur le sol français indépendamment de leur statut au regard administratif. Alors, quand une personne est en difficulté liée au logement, qu'elle a par exemple un récépissé, qu'elle n'est pas encore régularisée sur le plan administratif, la seule voie, c'est le 115 aujourd'hui à ma connaissance. C'est de pouvoir être hébergé dans le cadre de l'urgence. Et notamment en période hivernale, hein, cette question, elle est normalement prise en compte par les pouvoirs publics. Mais on sait bien, beaucoup de gens restent dehors, même en période de grand froid. Ce qui est particulièrement injuste, inique. Voilà. Donc, alors il y a certainement... il y a des dispositifs de hivernaux hein, qui sont mis en place par l'État conjointement avec les collectivités territoriales. Alors c'est grâce à cela que les gens peuvent être mis à l'abri, vous voyez bien dans quelles conditions, mais c'est certainement insuffisant comme dispositif. Hein. Nous en sommes tous très conscients. Hein. Mais il faudrait interroger effectivement à la fois la préfecture mais également la commune, hein, les communes, hein, de l'agglomération.
Oui, ben, nous attendions en fait ce matin Monsieur De Noël, mais il n'a pas pu venir.
Je voudrais demander, s'il vous plaît, pour les nationalités. Est-ce qu'un Citroën européen a une nationalité d'origine et deux nationalités peuvent faire le démarche pour la troisième nationalité française?
De quelle nationalité êtes-vous, pardon?
Alors, je suis européenne et algérienne.
De quelle nationalité?
Italienne.
Vous êtes italienne et vous souhaiteriez accéder à la nationalité française?
Oui, je voudrais faire le démarche, mais je ne sais pas quelle... Oui. Est-ce que j'ai besoin de pour faire la demande, il faut le contrat de travail?
Oui. Absolument. Ce sont les mêmes conditions qui sont réservées à l'ensemble des ressortissants étrangers vivant en France. Oui. Il faut que vous ayez effectivement, que vous soyez en situation d'insertion sociale professionnelle.
Mmh. Oui, c'est la, et c'est la même chose. Quand je vis sur Internet,
oui.
Après de 5 ans.
Absolument, au bout de 5
mais
ans de résidence.
Mais il y a le droit pour faire le 3e.
Vous pourriez absolument bénéficier de cette nationalité. Avant, il y avait un système de limitation de pluralité de nationalité, notamment européenne, mais aujourd'hui, c'est toléré.
Même s'il y a le d'origine, même, alors c'est pas grave. Pour
vous êtes italienne, madame.
Merci.
Lobna.
Oui, en fait, j'ai lu sur Internet, à partir de mars 2018, pour avoir un titre de séjour, il faut passer le niveau A2 en français. C'est sous quelles conditions?
Alors, Isabelle Kraft nous confirme.
On revient à parler du coup de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, et ça concerne en fait donc toutes les personnes qui sont arrivées en France depuis moins de 5 ans et qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Voilà. Donc pour acquérir le titre de séjour, ça va être maintenant corrélé à un niveau de langue. C'est déjà un peu le cas, mais ça va être intensifié, effectivement. Donc, il va falloir obtenir le niveau A2.
D'accord, c'est bon. Est-ce que tout le monde a pu poser une question?
Bonjour, je m'appelle Bruno. C'est juste pour ajouter quelque chose que la dame là, j'ai dit déjà avant, pour des avocats. Parce que moi, je connais 5 situations un petit peu le même. Moi aussi, j'ai passé de ça. Et j'étais à la préfecture. Pour signer, donc elle me donnait le papier pour retour, le pays qui me donnait le visa. Donc j'étais le rendez-vous le même jour avec l'avocat pour m'aider, parce que nous avons après passé la préfecture des jours, 48 heures pour faire le démarche. Donc j'étais là avec l'avocat, et quand j'arrive là-bas, son bureau, la secrétaire, elle m'a dit que l'avocat, elle n'est pas là, qu'il donnait un autre rendez-vous pour 2 semaines après. Donc moi, je connais aussi 4 amis qui passaient par la même situation. Donc moi, je pense que c'est quelque chose que des avocats, peut-être, c'est pas tous les avocats quand même, mais je pense que eux parlent avant, parce que je ne vais pas nous aider comme ça, je pense. Mais c'est juste, oui, je veux savoir le monsieur qui est ici.
Monsieur Buonanni.
Oui, il a quelque chose que vous pouvez nous dire par rapport à ça.
Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que si vous constatez qu'un avocat n'est pas à la hauteur, eh bien, il faut en changer ou saisir le bâtonnier. L'ordre des avocats, qui est à même, effectivement, de réguler les difficultés qui peuvent se poser à vous, dans votre relation à votre avocat.
Mais voilà. Il y a une autre difficulté, parce que ce sont des avocats payés par les États, donc c'est des associations qui nous aident, qui nous donnent aussi
justement
des avocats. Mais ce sont déjà 5 situations qui, moi,
j'entends
je
bien.
Connais,
j'entends bien.
Sont des avocats différents. Donc, elle fait la même chose. Donc, je ne sais pas si eux parlent avant pour vous faire des choses comme ça.
J'entends. C'est des situations qui sont délicates. Je pense que les avocats font aussi avec un contexte dans les relations avec les administrations qui sont assez difficiles, compte tenu des lois restrictives. Et peut-être pour ces personnes-là, hein, je pense à ces avocats spécialisés en droit des étrangers, c'est difficile. C'est difficile. Je ne suis pas en train de les exonérer. Je ne connais pas les dossiers en question. Hein. Mais je sais qu'ils ont des situations de plus en plus nombreuses, de plus en plus compliquées. Et face à eux, l'administration, eh bien, l'administration joue de tous les stratagèmes pour souvent ne pas accéder aux demandes des ressortissants étrangers. Donc, moi, la seule chose que je puisse vous dire, et je vous le rappelle, c'est de ne pas hésiter à saisir le bâtonnier si vous sentez qu'effectivement, l'avocat n'assure pas son travail à vos côtés.
Mais c'est où qu'on peut aller quand des choses comme ça
La maison de l'avocat. La maison de l'avocat, vous pourriez tout à fait ou écrire simplement au bâtonnier pour expliquer la situation et lui, il fera le nécessaire pour demander des explications à l'avocat en question.
Parce que, oui.
Donc l'ordre des avocats, qui est, vous savez, elle est en face du palais de justice. Il y a un bâtonnier, lui il est là pour réguler justement la profession d'avocat à Grenoble.
Ok, merci.
Je vous en prie.